Epaphras, tu m'épates. Et dont le thème, c'est le ministère et le ministère efficace. Le ministère efficace que chaque croyant, le ministère efficace que vous qui êtes ici ce soir, le ministère efficace que moi, bref, que nous tous devrions être en train d'exercer pour la gloire de Dieu. Nous avons chanté tantôt, « Je veux briller pour toi, là où tu m'as placé. » Ça, c'est ce que j'aimerais traiter avec vous ce soir. Comment est-ce possible de briller là où le Seigneur nous a placés? Alors, lisons notre texte, Colossiens 4, versets 12 et 13. Epaphras, Paul dit, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pardon, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Alors voilà notre texte, voilà notre homme, Epaphras. Warren Wiersbe, dans le livre intitulé « La prédication et les prédicateurs », a écrit ceci. Le ministère de Campbell Morgan, c'est un grand prédicateur, bien connu, était si populaire, si puissant et si efficace qu'il recevait toutes sortes de demandes et d'offres pour être le pasteur de différentes églises. Même un multimillionnaire a offert de construire une église d'une valeur de 1 million de dollars pour cet homme. Quelle a été la réponse de Morgan Campbell? Campbell Morgan a refusé. En lui disant, vous êtes très généreux, oui, mais je ne peux pas accepter votre offre. Parce que si j'accepterai votre offre, je serai votre homme et non pas l'homme de Dieu. Sans doute, il y avait justement quelque chose attaché. Hein? Je te construis une église, tu vas être, entre guillemets, mon pasteur. Campbell Morgan a dit non, je suis l'homme de Dieu, pas votre homme. Et ce soir, j'aimerais, et dans les semaines à venir, comme je l'ai dit, nous voudrions considérer le ministère de Epaphras, ministère puissant, ministère efficace, même si le livre sacré et la Bible ne dédient que seulement 4 versets à son sujet. Et nous pourrions tous nous poser la question, quel était son secret? Parce que Paul, il parle de ce que cet homme fait. Il y a un ministère, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et la parole de Dieu nous dit que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Alors ici, nous avons un homme qui est un combattant dans la prière. Et parce qu'il combat, et l'apôtre Paul l'appelle un fidèle serviteur, nous savons aussi qu'il y a des effets. D'efficacité. Mais quel est son secret? Ce qu'il a fait, est-ce que c'est à la portée de nous tous? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que nous pouvons l'imiter dans notre ministère? Ici, le contexte, c'est un ministère de prière, mais j'aimerais ce soir mettre cela plus large. Qu'importe le ministère? Comment pouvons-nous être efficaces dans notre ministère? Et bien sûr, la réponse est oui, on peut imiter Epaphras. Si vous êtes sauvé, si vous êtes un enfant de Dieu authentique, Dieu vous a confié un ministère. Et je sais que vous avez le désir de briller là où il vous a placé. Alors la question qu'on devrait tous se poser, alors voilà, êtes-vous en train d'exercer votre ministère? Et si c'est oui, est-ce qu'il est puissant et efficace? Alors ce soir, en regardant la vie d'Epaphras, j'aimerais vous proposer trois conditions. Trois conditions qu'il faut respecter pour exercer un ministère puissant et efficace. Et de voir, Bobby était capable, après mon introduction, de nous arriver tant jusque-là. Chacun son don, chacun son ministère. Alors pour imiter Epaphras et avoir un ministère efficace, que ce soit, comme je dis, dans la prière ou dans n'importe quel autre ministère, là où Dieu vous a placé, il faut tout d'abord et avant tout adopter sa mentalité. Adopter sa mentalité qui était une mentalité de serviteur. Si vous regardez votre texte encore au verset 12, que dit Paul à propos d'Epaphras? Epaphras qui est des vôtres, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et avez-vous remarqué que même avant de parler de son ministère, aussi importante qu'elle soit, un homme qui est un géant dans la prière, un combattant, Paul nous parle de ce qu'il est. Avant de parler de ce qu'il fait, Paul parle de ce qu'il est. Epaphras, serviteur de Jésus-Christ. Et je ne peux pas trop insister sur ce point. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est toujours le verbe être avant le verbe faire. Autrement dit, occupez-vous de ce que vous devrez être. Premièrement, votre moi, votre caractère, et Dieu s'occupera de ce que vous devrez faire, votre ministère. Ça, c'est basic, ça, c'est la base de la vie chrétienne. Epaphras, serviteur de Jésus-Christ, après, on parle justement de son ministère. Dans le texte original, ce mot « serviteur » traduit par le mot grec « doulos ». Michel a touché sur ce point ce matin. Je me suis dit, peut-être il va voler mon punch pour ce soir, mais on voit comment le Saint-Esprit travaille. Qui veut dire littéralement un esclave. Alors nous pouvons donc dire Epaphras, esclave de Jésus-Christ. Est-ce que ça vous choque que Paul appelle Epaphras un esclave? Est-ce que cela vous choque que si vous êtes un enfant de Dieu authentique, que vous aussi, moi aussi, nous sommes des esclaves de Jésus-Christ? Juste deux textes pour illustrer cela, pas besoin d'y tourner. Dans Éphésiens 6:6, qui nous parle des croyants de Christ, Paul va dire des serviteurs de Christ. Et le mot serviteur, c'est le même mot que nous avons ici, doulos. Alors on peut dire des esclaves de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Dans Apocalypse 22:3, dans la Nouvelle Jérusalem, dans l'état éternel, ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur et Seigneur, le texte les appelle les serviteurs. C'est le même mot, les esclaves. Des esclaves de Dieu qui le serviront et qui verront sa face. Alors la parole de Dieu est claire. Que ce soit maintenant ou bien que ce soit dans l'état éternel plus tard, ceux qui sont à Christ sont ses esclaves. Alors la question se pose alors, est-ce que Epaphras est pleinement conscient des implications rattachées à ce titre d'esclave? Et la réponse est oui, parce que le contexte de Colossiens, c'est dans le monde gréco-romain. Et le contexte du Nouveau Testament, la notion d'esclavage est bien connue et bien comprise. Parce que les sociétés, surtout les Romains, étaient fondées sur l'esclavage. Alors, Epaphras, il n'y a pas de problème avec ça, il sait. Quand Paul dit « serviteur, esclave de Jésus-Christ », il sait ce que cela implique. Mais en revanche, vous et moi, qui vivons dans une société occidentale, et d'où aussi cette notion d'esclavage entre guillemets, mal vu. Est-ce que cette notion est aussi bien connue et aussi bien comprise? Je ne suis pas si certain que cela. Alors ce soir, j'aimerais donner 5 applications qui découlent de cette notion d'esclave. 5 applications qui nous faut tous bien saisir et bien comprendre si nous allons exercer un ministère efficace. Les deux vont ensemble. Epaphras, esclave de Jésus-Christ, l'apôtre parle de ce qu'il fait. Et Michel a fait cela ce matin, je fais la même chose. J'ai pris les grandes lignes, justement, de Dr. MacArthur. Il a donné des titres et je les ai développés. Alors, ceux qui ont lu le livre, vous allez être capables, justement, de savoir ce que je m'en vais. Alors, la première chose qu'il faut bien saisir dans cette implication que nous sommes les esclaves de Christ, c'est la notion de propriété exclusive. La propriété exclusive. L'esclave était la propriété exclusive de son maître. Dans le monde gréco-romain, les esclaves, ils connaissaient ça, ils savaient ça, ils ne se posaient même pas de questions. Et comment est-ce qu'ils étaient arrivés dans une telle condition? Mais pour devenir esclave, il y avait 3 façons de l'être, de devenir. Tout d'abord, acheter. Le maître pourrait aller au marché, dans le marché où est-ce qu'on vendait des esclaves, et acheter, payer un prix pour acquérir un esclave. Souvent aussi pendant des guerres, quand on allait à la guerre, et on avait vaincu justement les ennemis, l'armée opposée, on capturait des prisonniers et on les faisait de ces prisonniers-là des esclaves. Ou bien, troisièmement, quelqu'un qui avait des parents qui étaient esclaves, et né de parents esclaves, mais automatiquement aussi, il était esclave. Alors, qu'importe, un esclave à l'époque du Nouveau Testament appartenait complètement, totalement à son maître. Et dans ce contexte, le parallèle avec la vie chrétienne est frappant. Parce que nous avons le pécheur qui est né esclave du péché. Ce que David dit dans le psaume 51. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Ça, c'est un fait. Il vient dans ce monde né esclave du péché. Mais quand nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons esclaves de Christ. Et par ce fait même, nous appartenons complètement, totalement à Christ. Parce que Jésus-Christ, comme le maître qui allait dans le marché autrefois, pour acheter un esclave, il nous a aussi rachetés. Titre 2,14 nous dit ceci. Quel beau texte. Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Voyez la notion, comment ça se chevauche. Christ s'est donné pour nous, pour nous racheter, et tout de suite l'apôtre ajoute, le rachat amène tout de suite l'appartenance. Nous appartenons à Christ. Il nous a rachetés. 1 Corinthiens 6, 19, 20 nous dit ceci. Vous ne vous appartenez point à vous-même. On a vu ce texte ce matin. Car, quoi, vous avez été rachetés. Quelqu'un a payé pour nous avoir. Colossiens 4, 1 nous dit ceci. Vous avez un maître dans le ciel. Alors, si nous avons un maître dans le ciel, c'est quoi l'implication? Un maître avec quoi? Les esclaves. Alors, la Bible martèle ce point que nous sommes justement la propriété exclusive de Jésus-Christ. Et comment, comme j'ai dit, Christ est devenu notre maître? C'est parce qu'il nous a rachetés. Et le mot signifie la libération d'une personne moyennant le paiement d'un rançon. Et vous savez tous, le texte, les beaux textes qu'on a dans 1 Pierre, que Christ a payé justement le prix pour que nous puissions lui appartenir. 1 Pierre 1, 18, 19 nous dit ceci, ce n'est pas par l'argent ou par l'or,
Il n'est pas allé, Christ, dans le marché des esclaves avec des pièces de monnaie que vous avez été rachetées, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Ça, c'est le croyant. Esclave de Christ, parce qu'il a été libéré de l'esclavage du péché par le rachat. Christ a payé un prix extrêmement élevé, son propre sang, pour devenir l'esclave de Dieu, pour lui appartenir. Romains 6, 18 renforce ce point en nous disant, ayant été affranchi du péché, puis quand quelqu'un a été affranchi, l'implication qu'il était esclave avant, alors il a été libéré du péché, affranchi du péché, vous êtes devenu maintenant quoi? Esclave de la justice. Et quelle libération, hein? Quelle libération d'avoir été libéré de cet esclavage terrible pour devenir maintenant les esclaves de Dieu avec toute une autre dimension. C'est extraordinaire. Un autre point que je trouve intéressant ici, le maître. Lors de l'acquisition de son esclave, dans le temps de Paul, Epaphras, lui donnait un nouveau nom. Un nouveau nom qu'il avait choisi pour lui. Alors, il allait acheter un esclave, il donnait un nom à cet esclave. Et le parallèle est encore là. Dans Apocalypse 3.12, nous verrons que Dieu fait la même chose avec ses esclaves, ceux qu'il a rachetés, nous autres. Le texte dit, et ça c'est le contexte des lettres aux sept églises, où est-ce que le Seigneur Jésus va parler à ces églises. Il va dire ceci, « Celui qui vaincra, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et mon nom nouveau. » Alors, quand un maître donnait un nom à ses esclaves, Jésus-Christ dit, « Celui qui vaincra, je vais lui donner aussi un nom. » Et Apocalypse 22, 14, que nous avons déjà cité en parlant des esclaves de Dieu, dit ceci, « Son nom sera sur leur front. » Alors, j'espère que vous êtes convaincus ce soir, maintenant, que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous, vous et moi, nous sommes esclaves de Dieu, sa propriété. Nous appartenons maintenant à Christ. Et comme je dis, pourquoi je martèle ce point? Parce que tout commence là. On ne peut pas avoir un service efficace. On ne peut pas briller là où ce que Christ nous a placés si on ne commence pas ici, dans notre mentalité que nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Ça commence là. Il faut adopter cette mentalité. Et dans cette mentalité, où est-ce que nous appartenons à Christ parce qu'il nous a rachetés, la première chose, c'est que nous sommes sa propriété exclusive. Et nous appartenons plus à nous-mêmes. Alors, avant de laisser ce point, j'aimerais juste parler d'une implication qui en découle. Si on reprend le texte dans Tite 2, 14, Christ s'est donné pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. Le texte dit, est zélé pour de bonnes œuvres. Alors vous le voyez, l'esclave, celui ou celle qui appartient à Christ, est imbu à cela. C'est zélé pour de bonnes œuvres. Et quelles sont ces bonnes œuvres? Mais Éphésiens 2.10 nous dit ceci, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, Dieu a un ministère. Dieu a un ministère pour chacun de ses esclaves. Il y a un ministère. Il y a des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et il y a un but pour cela, afin que nous les pratiquions. Ça, c'est votre ministère. Ça, c'est mon ministère. Et celui ou celle qui est convaincu qu'il appartient à Christ et son esclave sera zélé pour ce ministère. Ça, c'est ce que Tite 2.14 nous dit. Il nous a rachetés pour nous faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, et qu'est-ce qui suit? Des services, zélé pour de bonnes œuvres. Et c'est ma prière qu'il en soit ainsi dans cette assemblée, dans votre vie, dans la mienne, et que nous puissions prendre à cœur. Il y a une exhortation dans Colossiens 4, 17, un peu plus loin, où est-ce que Paul va dire ceci, « Dites à Archippe, prends garde. »
au ministère que tu as reçu dans le Seigneur.
Fais attention.
Afin de bien le remplir. Et celui ou celle qui est à la mentalité, comme je dis, d'un esclave, qui n'appartient plus à lui-même, qui appartient au Seigneur, il sera zélé pour de bonnes œuvres et il va bien remplir son ministère. Ça commence là. Deuxièmement, non seulement l'esclavage impliquait la notion de propriété exclusive, mais aussi de soumission complète. Une soumission complète, obéissance, qui était justement en vue du plaisir du maître. William Barclay, dans son livre intitulé « Les lettres de Jacques et Pierre » a dit ceci. « Les esclaves ne connaissent pas la loi, mais seulement la parole de leur maître. Ils sont la propriété absolue de leur maître et ils sont tenus de lui témoigner une obéissance indiscutable. » Et ça, c'est ce qui découle du fait qu'un esclave appartient à son maître, une obligation morale. Le maître a payé, l'esclave lui appartient, alors il y a une obligation morale à l'esclave d'obéir totalement, complètement. Et c'est ce que Paul va dire aux esclaves croyants de son époque, Colossiens 3, 22. Ça, c'est des esclaves chrétiens qui étaient là à l'époque. Et Paul va dire ceci, serviteurs, esclaves, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Parce que ça, c'est normal. Quelqu'un qui a payé un prix pour acquérir, avoir une propriété, ça m'appartient, mais alors en retour, il y a une obligation justement d'obéir. Et la parole de Dieu aussi nous parle de ce fait qu'en étant justement, ayant été rachetés par Christ, nous appartenons à Christ et là, nous avons aussi rattaché à ça l'obéissance. J'aime beaucoup le texte dans 1 Samuel 12, 14, où cette relation est très, très apparente. Samuel va exhorter le peuple d'Israël. Il va leur dire ceci, « Vous craignez l'Éternel, vous le servez. » C'est la même racine. Serviteur, esclave, vous le servez. Et quoi? Vous obéissez à sa voix. Et vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu. Alors, il met ensemble, vous servez et vous obéissez. Et si je reviens à 1 Corinthiens 6, 19, 20, comme nous avons cité, où est-ce que Paul nous dit que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, nous avons été rachetés à un grand prix, mais il n'est pas fini là. Il a dit après, quoi? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça découle de cela. Vous avez été racheté, vous ne vous appartenez plus à vous-même, alors qu'il y a quelque chose qui s'ensuit. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Comment est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, avant d'aller à la croix, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et qui, parmi toutes les personnes qui ont marché sur la terre, était obéissant comme Christ? Alors, vous voulez glorifier Dieu? Soyons obéissants. Et ça découle justement du fait que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Alors, l'obéissance découle de la notion d'appartenance. Et je vais vous dire une chose, plus que la notion d'appartenance est vraiment ancrée et saisie et bien comprise, plus l'obéissance sera accrue. Et plus que l'obéissance va croître, plus vous allez être efficace dans votre ministère. Vous allez briller là où Christ vous a placé. Et en ce qui concerne l'obéissance, il y a trois aspects. On peut avoir l'obéissance qui n'est pas présente, pas du tout, à cause du fait que nous résistons à la volonté de Dieu. Et ça peut arriver, même après qu'on nous sommes sauvés, à cause de nos cœurs qui sont tortueux et méchants. Et malheureusement, cela nous arrive. Et dans le contexte de cela, on a le roi Pharaon,
quand Moïse est allé voir Pharaon pour lui dire, laisse aller mon peuple. Écoutez ce qu'il a dit. Qui est l'Éternel? Pour que je obéisse à sa voix, je ne connais point l'Éternel. Qui est l'Éternel? Pour que je obéisse à sa voix, je ne connais pas. Et ça, c'est ce qui arrive quand on désobéit de façon délibérée. C'est comme si nous disions, qui est Dieu? Je ne connais pas. Je ne veux pas dire que vous dites cela de façon délibérée, mais c'est comme si on agissait, comme si on disait, qui est Dieu? Je ne connais pas, je ne sais pas qu'il est mon maître, et je ne sais pas que moi je suis son serviteur, son esclave. Pharaon a dit, je ne connais pas Dieu. Pour que j'obéisse, c'est qui? Et c'est la même chose dans la désobéissance, c'est comme si on disait, mais qui est Dieu? Je ne connais pas, et je ne sais même plus maintenant que je suis son serviteur, son esclave. Deuxièmement, il y a aussi la désobéissance, mais pas par résistance, mais par ignorance. Et ça, c'est parce que nous ne connaissons pas assez la parole de Dieu. On peut pécher aussi, désobéir par ignorance. Alors, le remède pour cela, c'est simplement de serrer la parole, Psaume 119, de serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alors, si on ne veut pas être des esclaves qui désobéissent par ignorance, la parole de Dieu est là. Prenez-la, méditez-la, chantez-la, écoutez-la, mémorisez-la, méditez-la, mangez-la, faites ce que vous voulez, mais il faut qu'elle soit ici pour nous éviter à pécher contre l'Éternel. Il y a un beau texte dans 1 Pierre 2, 2, pas besoin d'y tourner, mais comme des enfants nouveau-nés, Pierre va dire aux nouveaux chrétiens, désirez avoir soif pour le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ça c'est normal. Un enfant, un bébé vient au monde, puis qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à boire, à téter, il a soif. Et Paul dit la même chose, quand vous les chrétiens, vous devez avoir cette soif pour la parole de Dieu, c'est votre nourriture, ça va vous donner des forces, ça vous permettra à obéir et de briller là où Christ vous a placé. Troisièmement, il y a aussi l'obéissance, mais partielle. Et ça, c'est aussi coupable que la désobéissance. Et vous connaissez l'histoire de le roi Saül, quand il a été envoyé par Samuel, la parole de l'Éternel a dit, va tuer Agag, puis toutes les Amalécites, puis dévoué par interdit, puis il fait la job à botch, comme on dit, à moitié. Puis il ramène Agag vivant, puis les meilleurs brebis, tout ça. Puis là, il arrive, oh, j'ai fait la volonté de Dieu. Samuel a dit, non. Tu as désobéi, la désobéissance partielle. C'est pas ça que Dieu t'avait demandé. Tu étais dévoué par interdit. Là, il va y dire ceci, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Mais. Là, c'est ça, Saül. Obéissance partielle. Samuel a dit, écoute, tu as rejeté la parole de Dieu. Mais Dieu aussi t'a rejeté. Mais, grâce soit rendue à Dieu, il y a l'obéissance, pas partielle, mais parfaite. Et vous savez de qui je parle? La seule personne qui était capable. Pourquoi? Parce qu'il était aussi l'esclave par excellence. Je vous amène dans un texte là, que vous allez voir, c'est remarquable, dans Philippiens chapitre 2. Où est-ce que l'apôtre Paul, et vous allez voir les deux choses qui sont là. Il va parler du Seigneur Jésus-Christ, Philippiens chapitre 2, verset 6. Existant en forme de Dieu, il parle de Jésus-Christ. Ayez en vous des sentiments qui sont en Jésus-Christ. Qu'existant en forme de Dieu, n'a point regarder son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Quelque chose à retenir à tout prix. Mais il s'est dépouillé lui-même, remarquez bien, en prenant une forme de, votre Bible dit serviteur, mais dans le texte original, dans le grec, c'est doulos. Il a pris la forme de l'esclave. Et qu'est-ce que le texte dit après? Il s'est humilié lui-même, se rendant quoi? Obéissant. Les deux vont ensemble. Christ, le modèle parfait, l'esclave par excellence, il a été obéissant et une obéissance complète, totale, parfaite, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Quelle obéissance parfaite démontrée par l'esclave de Dieu parfait. Et quel plaisir pour le cœur de Dieu de voir son fils si obéissant. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé? Ah, j'imagine la joie dans le cœur du Père quand il a vu son fils obéir même jusqu'à la mort. Souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et maintenant, tout genou va fléchir. Et toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu, le Père. Vous voyez comment c'est tout ensemble? L'esclave parfait obéit parfaitement. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu est glorifié. Il a brillé là où Dieu l'a placé. Parce qu'il avait la mentalité d'un esclave. Il savait que ça impliquait l'obéissance. Quel modèle pour nous à imiter? Troisièmement, et je dois accélérer, propriété exclusive, obéissance complète, mais aussi une dévotion singulière. Une dévotion singulière. L'esclave devrait être reconnu pour sa dévotion, son attachement à son maître, son attachement à sa personne. Et qu'est-ce qui rendrait cela plus évident et plus facile? Mais c'était son amour pour le maître. Ça, c'était la clé. Une dévotion parce qu'il aimait son maître. Et vous savez qu'un quelqu'un, un esclave qui aimait son maître, ne trouvait pas difficile de le servir, d'être obéissant. Et là, nous avons un beau texte dans Exode 21, pas besoin d'y tourner, mais je trouve l'illustration là, extraordinaire. Vous avez un serviteur qui a servi pendant, un esclave qui a servi son maître pendant six longues années, fidèlement. Et selon la loi de Moïse, de septième année, il pouvait sortir libre. Et là, on lui offre justement, septième année arrive, et on lui offre maintenant la possibilité de partir. Là, il dit non. Je veux rester. Mais qu'est-ce qui le motive de rester là? Écoutez ce qu'il dit. Quelle belle parole. J'aime mon maître. J'aime mon maître. J'aime ma femme. J'aime mes enfants. Je ne veux pas sortir libre. Il restait attaché à sa personne parce qu'il l'aimait. Quelle motivation pour rester attaché à son maître. Pour rester à son service, son amour pour lui. Et c'est exactement la même motivation que nous trouvons dans notre relation d'esclave avec notre maître Dieu, notre amour pour lui. Et écoutez bien ce que Jésus va dire dans Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, voyez là l'obéissance, c'est celui qui m'aime. Jésus ramène ça. Là. Vous avez mes commandements, vous les gardez, vous m'obéissez, mais c'est une preuve de votre amour, une dévotion à ma personne. Jean 14, 15, il dit ceci, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. 1 Jean 5, 3, l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder ses commandements, c'est là dans le texte. Nous aimons Dieu alors que nous lui obéissons. C'est une preuve de notre amour. Et nous lui obéissons parce que nous l'aimons. Le serviteur qui dit après cette année-là, je reste là pour le servir. J'aime mon maître. Et nous aussi, c'est la même chose. Nous aimons le Christ. Alors on va le servir. Ça, c'est la dévotion singulière que l'esclave de Dieu doit avoir pour son maître. L'amour. Et quand nous aimons, l'obéissance, même si cela implique le sacrifice, n'est pas difficile. Pas difficile. Quel beau texte dans Éphésiens 5, 25. Christ a aimé l'Église. Et il s'est livré lui-même pour elle. Par amour. Galates 2, 20, Paul va dire ceci, le Fils de Dieu qui m'a aimé. Et qui s'est livré lui-même pour moi. Même si c'était un sacrifice, l'amour fait justement de grandes choses. Et ce soir, si vous avez de la difficulté avec l'obéissance, et je sais qu'on a tous la difficulté avec l'obéissance. Et cette obéissance que nous devons à notre maître parce que nous sommes ses esclaves, j'aimerais vous suggérer de travailler sur votre dévotion pour lui. Essayez pas d'être plus obéissant, mais travaillez sur votre amour, votre dévotion pour le Seigneur. Et l'obéissance se va suivre. Et comment est-ce qu'on travaille sur notre dévotion pour le Seigneur? Comment est-ce qu'on va l'aimer plus? J'aime le texte dans 1 Jean 4, 19. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et si vous voulez augmenter cette dévotion pour le Christ, si vous voulez avoir un amour ardent pour le Christ, mais focalisé sur son amour pour vous, et plus que vous saisissez cet amour profond que Christ a eu pour vous, plus que votre amour va répondre, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier, le secret est là. Et quel amour le Christ a démontré à notre égard. Dieu le Père nous dit ceci, Dieu prouve, Romains 5, 8, son amour envers nous, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu, qui nous aime, qui nous aime. Le texte dit, mourir pour un juste, à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, ok, mais des pécheurs, pas en tout. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il fait l'impossible, l'incroyable. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. L'amour du Fils. Jésus a dit ceci, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner ma voiture, pas de problème. Donner mon char, ma maison, donner n'importe quoi. Mais Christ donne sa propre vie comme preuve qu'il nous aime, qu'il vous aime, qu'il m'aime. Et Christ a souffert terriblement, physiquement, émotionnellement et surtout spirituellement quand sous le poids de nos péchés, il a crié dans une agonie extrême, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Abandonné du Père afin que nous, nous ne soyons pas abandonnés. Un jour, on va le voir face à face. On va voir les marques des clous dans ses mains, ses pieds. Il a mis une couronne d'épines sur son front. Il a fait ça, abandonné du Père, pour que nous, nous ne soyons pas abandonnés. N'est-ce pas l'amour? Et quand vous saisissez jusqu'à quel point, quand vous étiez haïssable, et vous ne voulez rien savoir de Dieu, Dieu dit, je vous aime. Je t'aime, et je te veux pour moi. Il est mort, il souffre pour nous. Et ça, ça devrait faire jaillir en nous un amour en retour. Et quand on aime le Seigneur, l'obéissance, ce n'est pas difficile. J'aime beaucoup, il y a un cantique que j'ai trouvé en anglais, mais je vais faire une traduction libre. La personne qui réfléchissait sur l'amour de Christ, il a dit ceci, ce que Christ a fait pour nous, là, si ça c'est pas une preuve d'amour, il n'y a pas d'eau dans les océans, il n'y a pas d'étoiles dans le ciel, et les oiseaux, ils savent pas voler. Mais, il y a de l'eau dans les océans. Des milliards et des milliards et des milliards de litres. Il y a des étoiles dans le ciel, des milliards et des milliards de galaxies. Et bien sûr, les oiseaux savent voler. Quel amour, quel amour, quel amour. Paul va dire dans Romains 8, 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est l'amour, chers amis. Il nous a aimés. J'aime mon maître, ce serviteur va dire. Quatrièmement, l'esclavage impliquait la notion de dépendance totale. Cela veut dire que l'esclave dépendait totalement de son maître pour ses besoins fondamentaux. La nourriture, le vêtement, le logis, je n'avais pas besoin de se casser la tête. et libéré de ses soucis, il pouvait se consacrer entièrement à son service pour le maître. Et encore une fois, le parallèle est là. Dieu, notre maître, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit à nos besoins. Et nous, ses esclaves, les récipiendaires, nous sommes ses dépendants, nous dépendons de Dieu. C'est pourquoi un des titres de Dieu, notre maître, est Genèse 22, 14, Jéhovah Jireh. J'aime ce titre de Dieu, Jéhovah Jireh. L'Éternel pourvoira. Et Paul va dire aux Philippiens, Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira. À quoi? Quelques-uns de vos besoins? C'est-tu écrit comme ça? Non. À tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Notre maître Dieu qui est bon, qui est fidèle à sa personne, fidèle à ses promesses, pourvoira totalement, complètement, amplement à tous les besoins de ses esclaves. Et si sur la terre, il y avait des maîtres terrestres qui étaient bons et qui ont su pourvoir aux besoins de ses esclaves, combien plus Dieu, qui est le maître par excellence, va pourvoir à nos besoins. Et selon ses richesses. Si le maître terrestre, là, il pouvait pourvoir selon ce qu'il avait. Il ne pouvait pas aller au-delà de cela. Mais Dieu, le texte dit selon sa richesse. Dieu est infini et il peut pourvoir de façon infinie à nos besoins. Il n'y a rien qui l'échappe. N'importe quel besoin que nous avons, Dieu va dire, je vais pourvoir à ce besoin. Parce que ça, c'est sa responsabilité en tant que maître. Et nous, comme j'ai dit, notre attitude face à cela, ok, je m'en fais pas. C'est le maître. Et sa responsabilité, c'est de pourvoir pour ses esclaves. Alors, notre attitude devrait être quoi? Comme j'ai dit, l'esclave ne se souciait pas de ses besoins à l'époque. Le maître pourvoyait. Connaissez les textes dans Matthieu 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne dites point que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. C'est un maître, un bon maître, il sait. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Oubliez les soucis des choses. Dieu, il est riche. Et tous vos besoins, je n'ai pas dit des choses que vous voulez avoir, mais vos besoins, les vrais besoins émotionnels, physiques, spirituels, Dieu a dit, je vais pourvoir, parce que je suis le maître. Et libéré de tout souci, comme l'esclave dans l'époque, on peut maintenant se donner complètement à notre service. Matthieu 6, 33 nous dit ceci, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est là où est-ce qu'on peut briller. Parce que le maître a dit, j'en prends soin, je prendrai soin de vous autres. Et ça, ça peut être n'importe où. À la maison, ça peut être à l'école, ça peut être au bureau, ça peut être sur le champ missionnaire. Là où est-ce qu'il vous a placé, il a dit, je vais pourvoir. Et juste rapidement, juste où est-ce que le Seigneur nous a placé en parlant de dépendance, je pensez à trois choses. Si vous allez exercer un ministère, il faut dépendre du Seigneur, il va donner un don. Il faut dépendre de lui. Le Saint-Esprit donne les dons. Puis tu ne peux pas dire, je veux avoir ci, puis je veux avoir l'autre. Non, 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 tout dépend de Dieu pour le don qu'il t'a donné. C'est lui qui décide. Il y a aussi le domaine. Le Seigneur, il va te placer. Je parle du contexte maintenant dans l'Église. Il y a d'autres contextes là, mais le Seigneur va vous placer là où est-ce qu'il veut que vous utilisez votre don. Vous allez dépendre du Seigneur pour votre plateau de service. Je pense à l'apôtre Paul et Silas, on va évangéliser. Puis là, ces besoins sont énormes. Ils vont aller en Asie. Saint-Esprit dit, non, c'est pas là. Là, ils s'en vont aller en autre place, en Bithynie. Il dit, non. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ils ont arrêté. Et là, pendant la nuit, on a eu une vision. Il y a un homme de Macédoine qui dit, tiens, viens nous aider. Et Paul a dit, ah, c'est là, le Seigneur veut qu'on travaille. Vous voyez comment la dépendance. Et c'est là qu'ils ont allé, ils ont établi des églises, Philippe, Thessalonique, Béret, et ainsi de suite. et aussi la durée aussi. Comment dire en anglais, only one time around the track. Ça, c'est notre vie. Une tour de piste. Et qui peut dire si je vais avoir plus de temps, moins? On ne sait pas. Ça dépend de Dieu. Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et il y avait 3 ans et demi. Il savait. Mais quel ministère époustouflant, efficace, puissant. Et s'il y avait quelqu'un qui dépendait totalement du Père, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et rapidement, je termine avec le dernier point. Propriété exclusive, soumission complète, dévotion singulière, dépendance totale, mais il y a aussi une dernière chose, responsabilité personnelle. Parce que l'esclave, dans le monde gréco-romain, avait des comptes à rendre à son maître pour son travail. Un travail bien fait était récompensé. Et même après les années de service, le maître pouvait le libérer. Mais un travail qui était mal fait, là, fait à botch, comme on dit, il y avait des sanctions. Et ça allait jusqu'à la flagellation. Même aussi banni pour finir ses jours sur les galères, comme Rama. Alors c'était assez motivant là, de faire un bon travail à l'époque. Et la même chose pour nous. Romains 14, 12 nous dit ceci, que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Un jour, on va rendre compte à Dieu. 2 Corinthiens 5, 10 nous dit ceci, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. On ne peut pas l'éviter. Il y a une responsabilité personnelle et on va rendre des comptes à Dieu pour ce qu'on a fait. Et ce qui pourrait être encourageant, et je pense ici à la parabole du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 25. Tous ces serviteurs qui ont reçu des talents. Et là, l'un qui va le faire fructifier. Et là, le maître arrive, il demande de faire. Demande de rendre compte. Et qu'est-ce qu'il dit le maître? C'est bien, bon et fidèle serviteur, mais dans l'original, c'est esclave. Entrez dans la joie de votre maître. Tellement que le maître est content. Tu n'as pas gaspillé ta vie. Je suis tellement fier de toi. Puis je veux que tu partages ma joie. Et Paul va dire aussi qu'il y va y avoir des couronnes. Le Seigneur va donner. J'ai combattu de bon combat. Il a dit, j'ai achevé la course. J'ai gagné. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le Maître, le juste juge, me le donnera en ce jour. Et qu'importe ce que le monde a dit de vous, des chrétiens ont été ridiculisés, martyrisés, méprisés, pas dit le juste juge. Dieu, il va passer tout, il sait exactement ce que nous avons fait. Qu'est-ce que ça vaut? Et c'est pour vous encourager parce que parfois on travaille dans l'ombre. Et des fois on est mal compris et tout ça. Mais Seigneur est le juste juge. Et si vous êtes fidèle à son service, il va vous dire, bon et fidèle esclave, rentre dans la joie de votre maître. Et tiens, j'ai une couronne pour vous autres. Alors quelle motivation pour persévérer? Quelle motivation pour achever la course. Je termine avec un texte dans Colossiens 1:7 dans le même livre. Et là, on a les deux choses ensemble. Paul, il va appeler Epaphras, il va parler de lui comme son compagnon de service. C'est ce que vous avez dans votre Bible. Mais dans l'original, c'est écrit un co-esclave. Et là, tout de suite, il va dire, il est un fidèle ministre de Christ. Vous voyez l'attachement? Epaphras, avec moi, il est un co-esclave, mais pour vous, C'est un fidèle ministre. Il remplit son ministère. Il brille là où est-ce que Dieu l'a placé. Parce que c'est un esclave. Il a la mentalité. Et là, il remplit son service. Et Paul est fier de le présenter aux Colossiens. Dit, c'est un homme fidèle. Il y a un ministère qui est puissant, qui est efficace. Parce qu'il a la mentalité d'un esclave. Et cette mentalité-là, je vous laisse avec cette dernière question. L'avez-vous adoptée? Dieu voulant, la semaine prochaine, on va voir le deuxième aspect d'Epaphras. Pas seulement un serviteur, mais un soldat. Il ne cesse de combattre. Hey, qu'est-ce que le Seigneur suscite parmi nous des Epaphras? Des combattants dans la prière. Et après ça, on va voir un autre aspect de cet homme extraordinaire. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Prends ta parole maintenant et par la puissance de l'Esprit Saint que tu l'appliques à nos cœurs et qu'elle puisse porter fruit pour ta gloire. Notre désir, c'est notre prière afin que le Christ soit élevé parmi nous, afin que nos vies soient transformées et afin que nous soyons des esclaves que tu veux que nous soyons, que ceux qui sont au service de leur maître, fidèles parce que nous comprenons, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire. Sébarque-nous avec ta bénédiction, nous te demandons au nom de Jésus. Amen.